Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Nous sommes vraiment ravis, comblés que vous soyez venus si nombreux ce matin nous rendre visite à Noyaret pour participer aux 15e rencontres nomades du Parc naturel régional du Vercors et du CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Vercors. L'idée de ces journées est née il y a donc une quinzaine d'années. L'esprit qui nous animait à l'époque était de tisser des liens entre ce qu'on appelle l'érudition locale, les sociétés savantes, les groupes du patrimoine, les associations d'histoire locale et la recherche académique en sciences sociales, en sciences humaines, dans un but de partage d'expériences, mais également d'action culturelle. Notre ambition, c'est également de travailler sur les deux départements. Donc, en principe, les rencontres se passent une année dans la Drôme, une année dans l'Isère. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le parc du Vercors est à cheval sur deux départements. Voilà, donc le contexte général. Alors, pourquoi j'insiste sur l'esprit de ces rencontres ? Parce que parmi nous, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont venues de fort loin.
Voilà, vous êtes tous témoins dans les lieux où vous habitez. J'allais dire hélas, mais après tout, c'est la vie aussi des immeubles. Vous connaissez tous des friches, qu'elles soient industrielles, agricoles ou autres, de bâtiments ou de lieux abandonnés plus ou moins. Et effectivement, on a tous un peu la nostalgie du temps où cette usine, si on parle d'une usine, fonctionnait, où il y avait de la vie, de l'emploi, et où il y avait du mouvement. Et c'est vrai que plutôt que de passer son temps à pleurnicher sur un passé qui est révolu, cette commande des quatre parcs à des artistes de nous donner à voir les choses autrement et de nous permettre peut-être de dépasser certaines réactions un peu, j'allais dire, primaires ou simples, simplistes, me semble quelque chose de très intéressant, puisque voilà, ça va permettre de faire le point exactement aussi sur ce qu'étaient ces friches avant, ce qu'elles recouvraient exactement comme activité, comme investissement de la part des personnes qui y vivaient, et puis de les voir justement avec un autre œil, celui de l'artiste, et d'arriver peut-être aussi pour certains lieux à imaginer une seconde vie ou une troisième vie pour ces lieux de façon locale, plus ou moins impliquée. Donc je crois que c'est très intéressant.
Au rythme du parc, une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité, produite par Erdiwa et financé par le Parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc, comme si vous y étiez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro au rythme du parc aujourd'hui consacré aux 15e rencontres nomades de Noyaret, donc dédiée au paysage industriel et mise en place communément par le Parc naturel régional du Vercors et le CPIE. Pour ce faire, j'ai la chance d'être avec Danielle Pic, donc présidente de ce parc, pour évoquer ensemble ce paysage industriel, ce que ça implique ainsi que ce projet artistique, cette commande passée à la Fondation de France. Donc déjà pour commencer, bonjour Danielle Pic.
Bonjour Aurélie.
Alors en quelques mots, si vous aviez à évoquer ce paysage industriel au passé, au présent et au futur, comment le feriez-vous ?
Alors je pense que tant au passé qu'au présent et au futur, l'association de Vercors, parc naturel régional et paysage industriel doit paraître très antinomique à certaines personnes puisque la première image qui vient dans la tête de ceux à qui on parle d'un parc naturel régional, c'est bien évidemment de penser à des grands espaces vierges, qui n'ont pas été donc domestiqués par l'homme, et qui sont à protéger, voilà, le mythe de la nature à l'état pur, comme si ça pouvait exister. Et en fait, effectivement, Si je me réfère au travail des historiens et à tout ce qui nous est raconté, le Vercors a été occupé par l'homme et façonné bien depuis longtemps, puisque, voyez, simplement quelques preuves, quelques exemples. Vassieux, musée de la préhistoire, qui est monté sur un site de taille de silex, qui était après échangé, puisque ce n'était pas tellement du commerce, mais plus de l'échange, avec sans doute d'autres produits ou d'autres denrées alimentaires par les tailleurs qui redescendaient du plateau l'hiver. Un peu plus loin, les carrières romaines, où étaient donc taillées des pierres, des blocs, des colonnes. Il y en a encore des inachevés qui restent sur site, et qui redescendaient après vers la Drôme ou vers la Lyonne sur le Royan pour être acheminés par radeau jusqu'à plus loin sur le Rhône. Ensuite, si je continue, on arrive bien évidemment aux forges, qui datent quand même aussi dans certains coins des religieux, des chartreux, donc vous voyez qui remontent à un certain temps, sans parler de toute l'industrie du bois, qu'on taillait sur la forêt de Lente, par exemple, et qui partait après jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer dans la fabrication des gros bateaux. Voilà, je pourrais comme ça aligner des tas d'exemples qui montrent que le Vercors, avec ses aires de grands espaces vierges, a été un terrain très, très utilisé, très occupé, fort heureusement, par l'homme depuis toujours.
Aujourd'hui, ce paysage industriel, cette activité industrielle, où en est-elle ?
Alors, cette activité industrielle, elle continue. Elle continue, mais en s'étant effectivement déplacée sur ce qu'on appelle les piémonts du parc, c'est-à-dire le bas de la montagne, pour la plupart, puisque, mais ça déjà, ça s'est fait au début du 19e siècle, puisque maintenant, vous savez qu'un des grands... Une des grandes recherches de tous les industriels ou de toutes les activités, c'est d'être près des axes de circulation pour être joignable rapidement ou joindre rapidement les clients éventuels. Donc, il est certain que si on est installé à Corançon, à Vassieux ou à Grèce-en-Vercors, c'est pas évident d'être accessible facilement. Bon, fort heureusement, maintenant, on a d'autres moyens de se joindre par Internet ou autre, mais quand on vient chercher un produit fini, c'est pas l'idéal. Donc, effectivement, les industries se sont rapprochées des grands axes de circulation tout autour du Vercors, mais heureusement, des petits ateliers, j'allais dire de pointe, très spécialisés, recherche aussi maintenant à s'installer dans des paysages qui soient en adéquation avec leur activité. Donc, par exemple, une activité que je connais, qui est l'atelier McPhee à la Motte-Fanjat dans le Royan, est une activité de pointe qui travaille en recherche avec les facultés de Grenoble et les pôles de recherche de Grenoble, sur comment comprimer de l'hydrogène pour en faire des sources d'énergie qui remplaceraient le mazout, le gasoil, etc., et être transportable dans une voiture. C'est installé au pied du Vercors, enfin dans le territoire du parc du Vercors, parce que cette image qu'ils veulent à juste titre donner de carburant d'énergie propre colle très bien avec l'image d'un parc naturel régional. Donc je pense qu'on est amené peut-être dans l'avenir, si on est assez malin pour savoir les intercepter et leur donner envie, on est susceptible de voir arriver comme ça des industries, des ateliers de pointe qui ont envie aussi d'être assimilés à un territoire propre de protection et d'avant-garde aussi sur la région.
En tout cas, l'image de marque en est favorisée, effectivement, le parc regorgeant, bien sûr, de ressources diverses et variées. Aujourd'hui, quel en est-il de l'export ?
Il faudrait peut-être qu'on reprécise une chose. Le parc naturel régional, c'est un territoire. Ouais. C'est l'ensemble de 85 communes et qui est géré en tant que parc par un syndicat mixte, Hein, voilà. Donc moi, je suis présidente du syndicat mixte. On fait des raccourcis depuis plus de 40 ans en parlant de gouvernance du parc. Mais sur le parc, chaque commune est gouvernée par son maire. Les communautés de communes maintenant. Et le parc, donc, lui, est simplement ce syndicat mixte. Alors maintenant, on se trouve en face d'une double problématique. J'allais dire les produits de consommation quasiment courante. C'est vrai que de plus en plus, tout le monde parle de circuit court. Essayer précisément de consommer, de produire et de consommer local pour éviter l'effet de serre par des circulations intempestives de camions. C'est dire qu'on est loin d'y être arrivé quand on passe sur l'autoroute. Mais bon, les parcs, c'est vrai, on travaille particulièrement dans ce sens-là. Ceci dit, quand je pense à certaines activités très spécialisées auxquelles on faisait allusion tout à l'heure, il est souhaitable qu'effectivement, ces techniques-là, sinon la production elle-même, mais les techniques elles-mêmes partent très loin, hein, partent le plus loin possible. Donc c'est vrai qu'il y a deux niveaux là, d'exportation des produits de l'ensemble du parc. Alors est-ce que les bois ont besoin de partir très loin? C'est peut-être pas utile. Après il y a des techniques, des savoir-faire qui eux peuvent être exportés effectivement.
Des technologies de pointe hein, que vous évoquiez tout à l'heure.
Tout à fait, comme McPhee, oui.
Voilà. Y a-t-il de réels espoirs quant à l'activité économique et industrielle du parc naturel régional du Vercors?
Eh bien, on espère, et je pense quand même que de façon assez générale maintenant, on sait très bien que de grosses usines de 300, 400 ouvriers, des choses comme ça, c'est un peu du rêve, c'est un peu du passé, voilà, dirons-nous, et qu'on compte beaucoup plus sur des installations de petits artisans, comme je le disais, plus spécialisés, plus spécialistes, et qui d'abord sont plus en adéquation avec cette image, précisément, des parcs. Et puis, font moins peur à ceux qui les reçoivent, je pense aux maires et aux communautés de communes, dans la mesure où un petit atelier s'arrête. Bon, si c'est 10 personnes ou 20 personnes qui sont au chômage, c'est très triste, mais ça n'a pas l'impact, ça n'a pas l'effet que produit une fermeture, comme on en voit en ce moment, d'usine avec 3000 personnes. Quoi.
Pour voilà. Ne pas les citer, mais
aussi,
effectivement.
Hein. Voilà, donc je pense que de toute façon, on est tellement dans une crise difficile en ce moment que même un petit atelier de 10 personnes fera plaisir à n'importe lequel des élus du territoire.
Qui dit activité industrielle, dit quoi? Qu'est-ce que ça induit?
Eh bien, dit d'abord du travail pour des personnes.
Bassin d'emploi.
Bassin de consommation, de vie. Hein. Alors, bien sûr, certains maires disent oui, mais bon, accueillir des familles, bien sûr, c'est accueillir de l'emploi, mais c'est aussi avoir une demande de services supplémentaires.
Annexe. Hein.
Voilà, que ce soit les écoles, que ce soit les garderies, que ce soit bon, des transports, etc. Et tout ça, il faut y répondre. Alors, c'est vrai que certains oscillent entre les deux. Est-ce que je me lance? Est-ce que je reconstruis une école dans le village s'il y grossit trop, alors qu'on l'avait supprimé il y a quelques années? Est-ce qu'on va me demander de mettre en place des CLSH l'été pour garder les gosses? Est-ce que, bon, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions. Et puis, une population qui vieillit. Alors après, ces services à domicile, maisons de retraite, demande d'association pour créer de l'activité. Mais c'est ça la vie aussi. Je crois qu'il faut pas en avoir peur et il faut ensemble y réfléchir et voir comment on peut répondre à cette demande.
J'ai envie de revenir un petit peu sur ces 15e rencontres nomades et à cette commande passée à la Fondation de France en la personne de Suzanne Brunner. Quelle a été donc cette commande?
Eh bien, on a travaillé avec deux artistes, Suzanne et puis Michel aussi.
Suzanne Brunner et Michel Aubry,
voilà,
tout à fait.
Voilà, et Michel Aubry. Les deux ont eu la même commande, à savoir de regarder ce paysage et ce qui l'entoure, enfin le paysage restreint et puis le cadre dans lequel, l'environnement dans lequel il est plongé, pour effectivement avoir à la fois une analyse artistique de ce qu'il peut être et de ce qu'il a été, bien sûr, et puis de comment on peut le re-rentrer dans notre vie de tous les jours, au lieu de le tenir à l'écart comme un peu un coin pestiféré ou un coin où on va pleurnicher sur un passé qui n'existe plus.
À travers des œuvres artistiques, voilà. Donc
alors après, c'est eux qui ont déterminé quelle forme aurait cette œuvre artistique. Est-ce que ça serait un objet, une sculpture ? Est-ce que ça serait un document vidéo ? Est-ce que, bon, voilà. Chacun a réagi à sa façon. Après tout, on pourrait aussi demander un jour à un musicien de créer une œuvre qui soit donc musicale, sonore, de la même façon sur un paysage, hein.
En tout cas, vous êtes quatre parcs assez riches, notamment par le biais de l'expérience du parc de la Lorraine, hein, qui, en termes de friches industrielles, pour le coup, ils sont un petit peu exercés. Donc, qu'est-ce que vous allez rechercher, justement, dans cette collaboration, dans cette mutualisation d'expériences et d'histoires
Alors, les 48 parcs français sont autant d'entités très originales, hein. Ce sont des lieux effectivement identifiés comme remarquables. Et c'est vrai que du coup, chacun travaille sur son territoire un peu à sa façon, le nez dans le guidon aussi. Et c'est vrai que ça, c'est un axe que la Fédération des parcs, qui nous regroupe tous, met vraiment en exergue, parce que c'est quelque chose d'important de permettre, par ces opérations interparcs, de sortir un peu de notre isolement. Parce qu'il y a deux façons de sortir de notre isolement, les parcs. C'est de travailler entre nous et puis de travailler avec les territoires voisins, hein, qui nous entourent. Nous, sur le parc du Vercors, on travaille beaucoup avec la métro, par exemple, de Grenoble, qui est quand même quelque chose de fort et qui on est en liaison, du moins par ses habitants, par les habitants sans arrêt. Donc là, on a cette première façon de s'ouvrir et d'être avec les autres. Et puis, entre nous aussi, parce qu'on sait qu'on parle le même langage, d'abord, et qu'on est très complémentaires, on est différents, et même avec nos voisins ardéchois ou du Mont-Pilat, le représentant, le collègue vice-président le disait ce matin, eux, ils sont quasiment un parc urbain, quoi, à une encablure de Lyon qui les envahit très, très régulièrement. Ils sont un tout petit parc, et c'est vrai qu'ils n'ont pas la même façon d'aborder les questions qu'on peut l'avoir, nous, qui sommes quand même très ruraux, mmh, par rapport à eux. Voilà, donc c'est ce besoin d'avancer ensemble. On sait que c'est, d'un côté, j'allais dire, c'est un peu la facilité, parce qu'on a les mêmes objectifs, la même façon de travailler. Donc, on sait qu'on va travailler facilement ensemble, même à distance, mais en étant donc très complémentaires et en s'enrichissant les uns les autres de nos expériences.
Et en ayant effectivement des problématiques singulières à chaque parc. Ah, hein. Oui. Moi, j'ai envie de revenir sur ces œuvres artistiques, hein, produites par la Fondation de France et ses artistes. Cette traduction artistique, quel rôle, quels enjeux pour le parc ?
Je crois que ça va susciter le questionnement, et ça va permettre aux gens de sortir de ce « Oh, ben la tabletterie, ça n'existe plus, c'est fini, mon père y a travaillé », enfin bon, et de voir comment, historiquement, les activités comme les gens meurent et puis renaissent. Alors, c'est pas dans des héritiers, dans des descendants, mais renaissent sous une autre forme, etc. Comment la vie continue aussi pour l'activité industrielle.
Là, j'ai deux idées qui me viennent. Un devoir de mémoire, hein, de la part du parc, mmh, à honorer, mmh, et puis de la transmission aussi.
Voilà,
j'imagine que ça relève de ces deux.
Et puis être capable aussi de réfléchir, d'anticiper et de voir comment on se projette dans l'avenir.
Danielle Pic, présidente du parc, hein, comment projetez-vous le parc dans l'avenir ?
Ben, les parcs sont en petite mutation aussi, comme tous les territoires, ce qui est normal. On ne va pas rester figé sur une image d'il y a 50 ans maintenant. Les parcs évoluent justement. Ils sont passés de cette image qu'on a de la peine à leur enlever de territoire de protection uniquement environnementale, à des territoires, alors que c'est la base de leur création, hein. Les parcs sont naturels régionaux, sont des territoires de protection, effectivement, mais tout en y incluant justement l'activité humaine, hein, ce qui nous différencie des parcs nationaux. Et je crois que plus que jamais, en ce moment, c'est le côté environnemental, j'allais dire. C'est jamais fini, la protection, etc. Mais je crois qu'on est très au point là-dessus maintenant et qu'on va pouvoir porter nos efforts sur le côté humain, sur le côté activité économique. Le tourisme étant une activité économique, bien évidemment. L'agriculture aussi. L'industrie, une autre. Voilà. Et se polariser là-dessus en liaison avec les territoires voisins qui sont... nos clients, nos demandeurs en priorité. Comment ne pas être un espace clos, une réserve d'Indiens, un peu, entre guillemets, mais bien un territoire qui est inscrit dans son environnement général, c'est-à-dire urbain aussi.
Pensez-vous qu'on a fait le tour de la question, en tout cas de votre point de vue, Daniel ?
Oh non, je pense que c'est difficile d'être exhaustif sur une question aussi énorme. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à être attentif à cette question. Et d'autant plus qu'on a la chance, là, je disais, d'être des territoires qui font envie et qui donnent à réfléchir. Je pense aussi au Val de Drôme, qui est un territoire qui nous jouxte par le sud, avec la Gervanne qui fait partie du parc. Et on a quand même des ateliers très en pointe sur la recherche, justement, tout ce qui est bio. Voilà, et ça aussi, c'est très complémentaire de ce qui se passe sur le parc.
Si je prends la Drôme, effectivement, premier département bio de France, donc quand même, ça fait, ouais. J'ai envie de dire, ça fait jurisprudence, quoi.
Tout à fait.
Ouais. Vous en êtes fière de ça ?
Ah ben bien sûr. En tant que drômoise en plus du parc, tout à fait.
Mais je vous remercie, hein, Daniel Pic, de votre participation. Merci de faire confiance à Erdiwa et à ses animateurs. Bonne chance pour la suite de cette journée, des entreprises que le parc met en place afin d'améliorer le quotidien et les échanges avec l'extérieur. En tout cas, merci à vous et bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Denis Roux, maire de Noyaré, vice-président du parc en charge de la culture et du patrimoine.
Bonjour à vous. Quel est votre rôle, en fait, dans cette journée ?
Donc, nous, on est la commune accueillante, donc on a eu un rôle plutôt matériel de mise à disposition de locaux et de matériel. L'idée, c'est d'ailleurs dans le nom, un rencontre nomade. Donc, ça tourne sur les différentes communes. Et normalement, ça tourne une année sur un département de la Drôme, une année sur le département de l'Isère.
Alors la commune candidate ou elle est désignée par le parc ?
Elle est proposée par le parc, donc ayant la double casquette de maire et de vice-président, voilà, je me suis demandé à moi-même.
Puisque c'est le thème, et puisque vous êtes le maire de Noyaré, parlez-nous un peu de son histoire.
C'est un village, puisqu'on est membre de l'agglomération, donc à la porte de communes qui font 150 000 habitants. Donc on est un des petits poussés de l'agglomération, un territoire très étendu qui va des falaises du Vercors en étant limitrophe d'un côté avec Autran jusqu'à la plaine de l'Isère. Et l'histoire de Noyaré a été marquée par la plaine de l'Isère puisque c'est les inondations de l'Isère qui ont constitué une plaine agricole avec le dépôt des alluvions, une plaine agricole à haute valeur ajoutée. Il n'y a pas un profil de cité d'Ortard, puisque sur la commune de Noyaré et la commune voisine, on a à peu près 2000 emplois qui ont été créés. Donc, moi, je suis élu depuis une quinzaine d'années, donc il y a eu une volonté de développer la commune selon trois axes. Le développement économique, le développement pour les habitants, avec l'ensemble des services, et puis la très forte volonté de protéger une zone agricole importante, puisque c'est l'une des plus grandes zones agricoles de l'agglomération, qui fait 250 hectares, et que depuis bientôt 15 ans, je me bats pour éviter que l'agglomération y disperse tout ce qu'elle a envie de disperser, zones d'activité, terrain de gens du voyage et autres. Donc la volonté de maintenir une activité agricole, et puis un village qui offre toute la panoplie de services pour que les habitants y soient bien. Pour l'instant, c'est l'un des derniers bastions agricoles, puisque les communes voisines Veuré et Sassenage ont fait d'autres choix, plutôt de faire de la zone d'activité sur les zones agricoles. Nous, on a vraiment souhaité, et mes prédécesseurs l'avaient fait, ancrer notre commune avec ce territoire agricole, en faire un atout pour l'avenir, pour protéger de l'espace agricole pour les générations futures. Et on essaye de mettre en place une politique qui permette à des jeunes de s'installer. Et pour que des jeunes puissent s'installer, il faut qu'ils aient une sécurité sur le foncier sur 20-30 ans pour pouvoir rembourser des emprunts liés à leur installation. Donc on a ce travail de se dire, voilà, on va avoir des générations d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il faut qu'on travaille pour permettre à des jeunes de s'installer. Et là, on a deux jeunes qui viennent de s'installer. On commence à être soutenus par l'agglomération.
Sinon, les soutiens, ils venaient d'où ?
soutien du département et puis ensuite des organisations agricoles. Les projets phares pour Noyaré, et ça va dans le sens de ce que je vous disais, on est en train de travailler sur la reconstruction d'un centre-village. Le commerce s'est dispersé au niveau de la commune et on veut essayer de regrouper sur un espace qu'on a acquis autour de la mairie l'ensemble des commerçants pour vraiment en faire un pôle de rencontre, un pôle d'échange, un pôle de commerce, un pôle de service. Alors ça, c'est un projet phare sur lequel on travaille. Et puis l'autre projet, c'est aussi une construction de salle des fêtes. Donc ça, c'est important puisqu'on a beaucoup développé la qualité de vie de nos sportifs avec un gymnase. Mais on a maintenant à développer la qualité de vie culturelle pour nos habitants sans utiliser obligatoirement les salles des écoles.
Merci Denis Roux. Et bien, bonne suite alors.
Merci à vous.
Capsule. Capsule. Comme si vous y étiez. Je suis en présence de Valérie Cudel de l'association À Demeure, médiatrice de l'action Nouveaux Commanditaires proposée par la Fondation de France, qui a été à même de répondre à la commande du parc naturel régional de Vercors. Puis Michel Aubry, artiste, qui intervient dans le Royaume Dromois et Isérois sur la thématique des métiers et usines de transformation du bois. Et Suzanne Burner, donc sa zone Les Carrières de l'Échaillon de Saint-Quentin et l'ancienne fonderie de canons de Saint-Gervais. Donc, pour commencer, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Valérie, pouvez-vous nous rappeler déjà le rôle de la Fondation de France et la commande précise que le parc vous a passée ?
C'est un rôle qui est venu a posteriori. J'ai été appelée par les parcs pour répondre en fait à un premier rôle qui était celui de directrice artistique pour chapeauter en fait le programme dans son intégralité sur les 8 sites qui avaient été identifiés et pour le choix des artistes. Chemin faisant, comme je l'ai expliqué ce matin, très rapidement, en rencontrant les personnes sur les territoires, associations, habitants, anciens ouvriers, communautés de communes et parcs, j'ai constaté qu'on se rapprochait dans l'esprit du travail, dans la philosophie d'action et dans l'énoncé des demandes de la philosophie d'action des nouveaux commanditaires donc proposés par la Fondation de France. Donc la commande initiale des parcs et la thématique fédératrice était les paysages industriels. Quand il est décliné sur chaque site, bien évidemment, il pose des questions spécifiques qui est liée en fait à l'activité ou une question prédominante qui semble intéressante de développer. Donc pour le Royan, Vercors, en tout cas plus spécifiquement sur Saint-Jean-en-Royan, même si elle concerne le Royan et plus généralement, la commande a été portée par l'association Arbre et le parc naturel régional du Vercors. L'idée partait en fait d'un constat qui était l'absence de traces liées à l'activité de la tournerie-tabletterie. Et très rapidement, elle s'est orientée sur la question du savoir-faire, d'une énergie qui aujourd'hui s'était un tout petit peu éteinte et en même temps qui était encore très présente dans les mentalités. C'était effectivement de ne pas rester sur cette tonalité négative, mais de déplacer le regard et de mettre en fait en exergue, en évidence, ses savoir-faire et ses capacités pour essayer de passer à une autre étape, ce qu'a commencé à faire d'ailleurs l'association ARP, qui est une association professionnelle.
En tout cas, vous, Michel Aubry et Suzanne Burner, vous êtes là pour raviver un petit peu ce passé. Donc j'aimerais avoir vos retours ou vos commentaires sur votre approche respective. Donc peut-être honneur aux dames, hein, Suzanne, à vous d'exposer votre technique d'approche.
Alors, dans mon cas, il y a deux commanditaires, comme Valérie l'a déjà dit, et deux sites. Et je me suis rendu compte que les deux sites font partie d'un ensemble d'un paysage industriel. Alors c'est pas, les sites sont pas isolés. Et ce matin aussi, on a beaucoup parlé d'un regard subjectif sur le paysage industriel. Et je suis partie sur un film, sur une espèce de road movie qui, avec un protagoniste qui va nous montrer ce monde-là, ce monde industriel qui n'existe plus comme à l'époque où la question c'est toujours pendant quelle époque. Alors c'est qui n'existe plus comme il était. Et il va nous montrer des aspects de ce monde-là. Oui, et il y aura aussi un carnet de voyage, un faux carnet de voyage d'un caractère qui est un mélange entre le protagoniste du film et entre mes expériences ici.
Donc effectivement, vous êtes immergé un petit peu, hein, dans cette zone, et dans, me semble-t-il, hein, vous avez passé du temps là-bas sur place.
Oui.
Et vous avez retrouvé des notes, des photographies, pour le coup des témoignages directs, hein, de ce temps passé.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens de la région, et on a visité des archives. On a fait des entretiens avec des habitants. Et oui, c'est ça, la nourriture de mon projet. Ce que je n'ai pas dit au début, le road movie va se passer pas sur une route, par contre sur l'Isère. Et l'Isère a un statut particulier parce qu'il y avait une époque où elle servait comme moyen de transport principal pour les éléments dont on avait besoin pour la production et aussi pour les produits. Et je trouvais l'Isère intéressant comme lien entre les deux sites aussi.
Oui, qui est finalement une voie fluviale entre les deux sites. Merci. Alors, votre approche, j'ai eu un petit peu plus de mal à la comprendre, hein, Michel Aubry. Donc, je veux bien que vous m'éclairiez encore un petit peu et que vous éclairiez nos auditeurs.
Mais en effet, il y a certainement une différence puisque je ne m'appuie pas sur un site en particulier. Il ne reste pas une usine spécifique, aurait été une tournerie, tabletterie emblématique, mais plutôt un ensemble, un réseau assez complexe. D'échanges. On a même vu ce matin d'ailleurs que ces échanges en ce qui concerne la métallurgie allaient finalement jusqu'à Saint-Étienne. Donc voilà, on commence ici et on va sur le deuxième parc sur lequel je travaille. Donc j'ai pris justement cette vision d'ensemble comme point de départ. Et du coup, on est forcément dans la fiction, puisqu'on ne s'appuie pas sur un objet spécifique, une usine spécifique, une forêt. Voilà. Donc cet ensemble, pour moi, il est construit depuis des siècles par les artistes, puisqu'ils ont créé ce paysage culturel. C'est la manière de regarder. C'est ça qui forme paysage. Et en s'appuyant sur le regard des artistes et leur réponse à des commandes, tout ça n'est pas nouveau, ni le regard sur le paysage, donc la création d'un paysage, ni la commande. J'évolue comme ça, de point en point, pour essayer de construire des éléments qui, évidemment, participent à un film, mais qui seront beaucoup plus que des éléments de décor ou de costume, qui vont devenir l'œuvre en elle-même, alors que le film va passer au second plan et sera plutôt donc, ce que j'ai appelé un film d'accompagnement. Voilà. Mais c'est vraiment, pas en tâtonnant, mais en avançant peu à peu, en construisant des scènes de fiction pour le film, que j'avancerai vers le développement d'un travail plastique.
Donc en tout cas, voilà, sont deux travaux en cours, hein, tout n'est pas fini. Quand aurons-nous la chance d'apprécier le résultat de vos recherches, Valérie?
Les dates n'ont pas encore totalement été arrêtées. Pour Michel Aubry, il y aura normalement un parallèle de dates qui se suivront entre le PILA et le Vercors, puisque Michel est invité aussi dans le PILA. Donc plutôt fin juin, probablement plutôt début juillet. Et Suzanne, comme le tournage du film va dépendre des conditions climatiques, on part plutôt sur l'été, voire début septembre.
Merci à tous les trois de votre participation. Je vous souhaite bon vent et puis j'espère vous suivre, hein, tout au long de vos avancées. Je vous dis à rendez-vous au premier semestre 2014.